soir, 10 ans après l'accord de Sun City, beaucoup de recommandations n'ont pas été exécutées. Malgré la tenue des élections, la réconciliation nationale a été un raté et beaucoup d'antivaleurs gangrènent la gestion de l'État. Tel est le constat fait par plusieurs participants aux 3 jours de réflexion organisés par le PREGESCO, un programme de renforcement des capacités de la société civile sur la gestion et la prévention des conflits qui s'est penché sur le 10e anniversaire de la tenue du dialogue intercongolais. Quelle analyse faire de ce bilan? Pour en parler, nous recevons Georges Chonza Mata, coordonnateur régional du PREGESCO et analyste des politiques économiques. Monsieur Chonza Mata, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Monsieur Kabeya Chikoukou, membre de l'opposition, cadre de la direction politique du CPDS. Monsieur Kabeya, bonsoir.
Bonsoir.
Honorable Théophile Mbemba, député national et cadre du PPRD. Professeur, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Merci de nous recevoir partout en RDC grâce également au réseau des radios partenaires de Radio Okapi. À travers le monde, vous nous suivez sur radiookapi.net. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78. Et par mail, écrivez-nous à dec@radiookapi.net.
L'accord politique de Sun City prévoyait notamment la réunification, la pacification, la reconstruction du pays, la restauration de l'intégrité territoriale et le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, la réconciliation nationale, la formation d'une armée nationale restructurée et intégrée, l'organisation d'élections libres et transparentes à tous les niveaux, permettant la mise en place d'un régime constitutionnel démocratique et la mise en place des structures devant aboutir à un nouvel ordre politique. Didier Moumengi, vous êtes écrivain et acteur politique congolais. 10 ans après la signature de l'accord politique de Sun City, quel bilan dressez-vous de son application?
Le constat général, 10 ans après, le pays a connu une reculade. Avant Sun City, nous avions le gouvernement de la République et 2 grands groupes rebelles. 10 ans après, nous avons le gouvernement de la République, mais l'est de notre pays est gangréné par 40 de groupes rebelles. Et les velléités sécessionnistes commencent à naître. D'où l'urgence de tirer des leçons de l'inefficacité de l'application des résolutions de Sun City. Nous souhaitons qu'il y ait cette fois-ci un dialogue scientifique et citoyen pour la renaissance du Congo. Notre pays a besoin d'une gouvernance installée dans un contexte de réalisation et d'objectifs impératifs.
Nous n'avons pas progressé, c'est aussi l'avis du professeur Mathieu Kalele, président du Front pour un nouveau type de Congolais, parti de l'opposition. On l'écoute une fois de plus au téléphone de Samuel Kachak.
On a constaté effectivement que nous n'avons pas avancé. Par contre, il y a même beaucoup de recul. N'oubliez pas que Sun City avait 3 axes. La lutte contre la partition du pays, la lutte contre les conflits armés et la démocratie. Or, maintenant, les conflits armés continuent. Il y a de plus en plus de groupes armés qui sèment la terreur. Vous savez également qu'on est menacé par la balkanisation. Sun City avait demandé qu'on constitue une armée républicaine forte. Nous n'avons pratiquement plus d'armée. Notre armée est en déliquescence. La manière dont les élections se sont déroulées, tout ça, ce sont des ratés par rapport à ce qu'on avait mis comme principe et comme souhait à Sun City.
Georges Chonza Mata, vous êtes coordonnateur régional du PREGESCO et analyste des politiques économiques. 10e anniversaire de l'accord politique de Sun City, 10 ans, oui, mais pourquoi avoir organisé cet atelier?
Merci Alain. Je crois que les collègues avec lesquels nous avons partagé 2 mois de travail pour préparer cette rencontre, ensemble avons estimé que c'était nécessaire que, d'abord, on puisse aussi avoir une certaine pratique d'évaluation des engagements qu'on prend. Sun City constitue un moment important dans l'histoire de notre pays, et je crois qu'on l'a dit après la table ronde de 1960, la conférence nationale souveraine, il n'y a jamais eu un forum aussi important pouvant dessiner les orientations d'avenir pour le pays. Et donc, on ne pouvait pas passer sous silence un moment si important de l'histoire. Et donc, 10 ans après, on a eu la transition, on a eu deux cycles électoraux. Est-ce que fallait-il continuer sans penser aux fondamentaux qui avaient été et qui ont constitué la base du fonctionnement actuel de l'État et tout ce qui a été fait au niveau institutionnel, au niveau économique, au niveau social, au niveau politique et tout ce qui n'a pas été fait. Donc nous nous sommes dit, peut-être que c'est bon, que à travers un exercice scientifique, purement scientifique d'évaluation, on puisse permettre aussi, renouer un certain nombre de fils d'idées, permettre à nos acteurs politiques, sociaux, économiques, de pouvoir se regarder encore une fois de plus, yeux dans les yeux. Qu'avons-nous fait? Comment pouvons-nous encore contribuer à l'avancement de notre État?
Alors, vous dites que Sun City figure parmi les forums les plus importants de notre pays. Mais pouvez-vous, à titre pédagogique, hein, juste rappeler un peu le contexte politique qui a conduit à cet accord?
Je crois que il y a Monsieur Moumengi qui l'a rappelé ici, professeur Kalele également. Nous étions un pays, au début de, vers la fin des années 90, nous étions pratiquement un pays émietté. Nous avions à l'est une partie contrôlée par une rébellion, au nord une autre rébellion. Bien évidemment, la partie occidentale, un peu australe également, contrôlée par les gouvernements qui étaient contestés par les deux rébellions. Et les deux rébellions se sont encore émiettées, elles aussi, dans d'autres rébellions.
Les deux rébellions, il faut préciser que c'est
voilà,
le RCD et le MLC.
À partir du RCD, il y a eu d'autres RCD qui se sont créés, MLC, RCD, KML. Il y a eu d'autres forces qui ont vu les jours dans l'Itourie. Et tout ça, ça faisait que finalement, le pays était en train de perdre de son existence. Et heureusement qu'il y a eu des consciences dans ce pays qui se sont dit non, on ne peut pas continuer ça. Et il y a eu l'accord de Lusaka qui était un accord de cessez-le-feu. Mais cessez-le-feu ne pouvait tenir que avec la concrétisation d'un accord politique pour sortir d'une manière plus durable de conflit. Et c'est ainsi que Sun City devait constituer une base pour, mettre fin au conflit et donc restaurer la paix. Deuxièmement, reconstituer l'État congolais dans son existence la plus normale possible, faire en sorte que l'État ait de l'autorité sur toute l'étendue du territoire. Et troisièmement, effectivement, relancer le processus démocratique. Voilà le contexte dans lequel le Sun City s'est fait, et avec la participation, bien évidemment, les négociations ont commencé le 25 février 2002. Et finalement, se sont arrêtés vers fin avril avec l'accord entre MLC et le gouvernement. Et le RCD, ne faisant pas partie de l'accord, a dit bon, moi je ne continue pas. Finalement, une partie de l'opposition non armée, comme on l'appelait, ainsi que la société civile. Puis finalement, les choses se sont bloquées et on a dû se retrouver au mois d'octobre, pour relancer les négociations et puis finalement signer l'accord le 12 avril 2003.
Voilà, Monsieur Kabeya Tshikuku, vous êtes membre de l'opposition, cadre de la direction politique du CDPS. Voilà, j'y arrive. Hein. Mmh. Alors, vous avez suivi tout à l'heure l'évaluation telle que proposée par Didier Moumengi et le professeur Mathieu Kalele, qui pense qu'on a reculé, qu'on n'a pas avancé. Quel est votre point de vue?
Oui, globalement, je crois que ils ne se trompent pas. Ils ne se trompent pas, mais il faut bien reconnaître une chose, que une nation, aussi immense et aussi diversifiée que la nôtre doit avoir une lecture citoyenne relativement consensuelle de sa propre histoire. Nous avons été à Sun City pour refonder l'État, pour rebaliser notre chemin vers l'avenir et pour conjurer toutes les menaces de balkanisation du pays. Et de ce point de vue-là, je crois que il y a eu quelques avancées. Il y a eu quelques avancées dont il faut absolument tenir compte, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de ratés.
Commençons par les avancées.
Oui. Il y a eu quelques avancées, ça veut dire tout simplement que la conscience d'abord au niveau de la société civile. Quand je parle société civile, ça veut dire au niveau de la culture, du citoyen moyen. On a pris conscience et de l'utilité, de la nécessité de se battre pour l'intégrité territoriale de notre pays. Et ça, je crois que s'il y a quelque chose sur lequel les Congolais sont d'accord de ne jamais reculer et de ne jamais faire de concessions, c'est l'unité territoriale du pays. Nous pouvons avoir des querelles politiciennes. Nous pouvons ne pas nous entendre pour ce qui est de la sensibilité sur l'une ou l'autre question. Mais ce qui est certain et ce qui est un acquis à nous tous, c'est la détermination avec laquelle nous luttons pour l'intégrité territoriale.
Aujourd'hui, on parle en termes de balkanisation. Lutter contre la balkanisation.
Oui, lutter contre la balkanisation. Merci du correctif. Mais ça veut dire aussi, vous savez, le mot balkanisation est rebarbatif aussi. Hein? Lutter pour l'intégrité territoriale, ça a été toujours notre bataille depuis le 30 juin 1960.
Alors, qu'est-ce qu'on peut considérer comme autre avancée à part la conscience de la société civile?
Il y a ça. Vous savez, une avancée à l'échelle d'un peuple, c'est au niveau de la société civile qu'il faut la lire. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons pris conscience, toujours au niveau de la société civile, aujourd'hui, plus qu'il y a 10 ans, qu'il nous faut une armée. Si il y a 10 ans, on parlait d'une armée, ou on parlait de réformer les services de sécurité, tout ça, les gens croyaient que c'était un débat oiseux. Au jour d'aujourd'hui, tous les Congolais, où qu'ils se trouvent, sentent la nécessité qu'il y a de consolider l'unité nationale et l'intégrité territoriale par la construction de l'État sur ses piliers traditionnels que sont l'armée, les services de renseignement, la police et j'en passe.
Alors dans la reconstruction, dans la relance du processus démocratique, il y a 2 élections qui ont été organisées. Est-ce un acquis?
Vous savez, quand on fait la lecture de tout ce qui se déroule à l'échelle d'un peuple, il ne faut pas raisonner comme à l'échelle d'un individu. Il y a eu des avancées, il y a eu beaucoup de ratés.
Allons-y par rapport aux ratés.
Oh, par rapport aux ratés, ça se sait. Par rapport aux ratés, il y a eu une première élection en 2006 qui était contestée, une deuxième élection en 2006 qui a été encore davantage contesté.
En 2011.
En 2011 dire, plutôt. Ouais. Oui. Ça a été davantage contesté. Ça s'est connu de tout le monde. Il s'en est suivi un problème qu'on le veuille ou non, un problème de légitimité du pouvoir en place, un problème de légitimité des institutions, qui n'arrive pas à être résolu parce que les institutions elles-mêmes qui sont mises en place ne travaillent pas de façon à reconquérir cette légitimité qu'elles n'ont pas eue dès le départ des élections. Alors, ça pose un problème.
Alors, s'il y a eu beaucoup de ratés, quelques avancées, donc 10 ans après, le bilan est négatif, mitigé d'après vous?
Non, c'est pas mitigé. Le bilan est négatif. Le bilan est négatif parce que, à l'heure actuelle, nous n'avons pas, dans notre existence en tant que peuple, en tant que pays, nous n'avons pas les éléments essentiels derrière lesquels on peut abriter notre identité commune, derrière lesquels on peut défendre notre collectivité nationale, comme l'armée, comme l'État, comme les services de renseignement et tout ça. C'est un raté et il faut absolument rapidement reprendre le processus et essayer de carburer dans le sens des résolutions du DIC.
Honorable Théophile Mbemba, vous êtes député national et cadre du PPRD. Vous avez suivi Monsieur Kabila Tshikoku, vous avez suivi Didier Moumengi, professeur Mathieu Kalele. Il y a eu beaucoup de ratés, quelques avancées. Quelle est votre analyse 10 ans après l'accord politique de Sainte-Cité?
10 ans après, effectivement, il est important qu'une évaluation soit faite. Mais lorsqu'on fait une évaluation, il faut une lecture globale. C'est-à-dire qu'on fait le constat du point de départ, on fait aussi le constat du moment où on fait l'évaluation, et on fait une lecture autocritique, et alors on peut envisager les perspectives d'avenir. Et par rapport à cela, Monsieur Georges Tshonza, je crois, a bien décrit le contexte dans lequel le dialogue intercommunal a été organisé. Un accord de cessez-le-feu qui n'arrivait pas à s'appliquer. Il fallait bien un accord politique pour aller de l'avant. Et nous sommes allés à Sainte-Cité pour ces négociations entre Congolais. Et donc, lorsqu'on fait l'évaluation, ça suppose qu'il faille regarder de près les objectifs principaux qu'on s'était assigné au courant de ce dialogue intercongolais. Et vous les avez rénumérés. Il fallait la réunification du pays. Le pays était divisé. Est-ce que peut-on dire qu'aujourd'hui, le pays n'est pas réunifié? Il est réunifié. Il fallait pacifier les pays à ce moment-là. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le pays est en guerre, dans tout le cas. C'est vrai qu'il y a des situations d'insécurité à l'Est, mais le pays n'est pas en guerre.
Mais il n'est pas non plus pacifié.
Le pays est en paix, parce que le pays, la République démocratique du Congo, compte quand même 11 provinces. Nous avons une situation effectivement très préoccupante sur le plan de la sécurité à l'Est du pays. Hein, et nous ne pensons pas que la République démocratique du Congo est le seul problème de pays démocratique où il existe des situations d'insécurité. Nous parlons de la restauration de l'intégrité territoriale du pays. À ce moment-là, comme vous saviez, il y avait 3 administrations. Les frontières étaient contrôlées complètement, n'étaient pas du tout contrôlées par le gouvernement central. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, même si la situation n'est pas parfaite. Le rétablissement de l'autorité de l'État, c'est l'administration qui dépend du gouvernement central, qui est sur l'ensemble du territoire national. La réconciliation nationale. La réconciliation nationale ne veut pas dire que les gens devaient s'aimer. Ce qui veut dire que nous devions nous mettre d'accord en tant que Congolais sur la manière dont nous voulons conduire notre pays. Et ceci essentiellement autour de la loi fondamentale. Et nous savons qu'il y a eu effectivement la constitution de la transition, mais après, il y a eu un référendum populaire, il y a une constitution qui avait été votée, et il y a eu les 2 cycles électoraux dont on nous a parlé tout à l'heure. Parlons de la formation de l'armée nationale restructurée et intégrée. Peut-on dire aujourd'hui qu'on n'a pas d'armée? Ça serait trop fort.
Ça reste un boulet que traîne la RDC.
Ça serait trop fort. Mais je reviens à l'objectif. Et je suis bien placé pour en parler. Je sais que pendant la transition, d'abord, primo, il faut retenir le fait que nous avions il y avait l'armée nationale et puis il y avait les mouvements politico-militaires, le MLC, les RCD et KML, etc. Et il y avait les groupes armés qui étaient le Mai Mai. Et que donc, c'est dans ces conditions-là, la situation était réellement ingouvernable. Et le dialogue intercongolais avait levé l'option, effectivement, d'aller vers la formation d'une armée nationale restructurée intégrée. Ce travail avait bien commencé pendant la période de transition. Et je crois qu'on en est arrivé même à former, je crois, 13 brigades à l'époque. Ce qui veut dire qu'il y a une armée, mais peut-être qu'il n'a pas encore atteint le niveau de performance qu'exige pour un pays, un grand pays comme le nôtre, avec les immenses richesses qu'il contient. Mais le plus important, un des objectifs majeurs, c'était l'instauration de nouvelles ordres politiques, l'ordre démocratique. Et il y a eu 2 cycles électoraux qui ont été organisés. Et aujourd'hui, si nous devons faire évaluation, moi je dirais, on a fait du chemin, mais c'est vrai que beaucoup reste encore à faire.
Nous allons prendre pour vous, professeur, cette réaction qui nous vient de Mbandaka à l'Équateur.
C'est Jean-François Ngando, ici Mangue de Mbandaka à l'Équateur. Ce n'est pas la volonté de résoudre les conflits en RDC qui avait animé les participants à San City, mais plutôt le partage du pouvoir. Donc les décisions prises lors de ces dialogues sont restées lettres mortes et les inversions de valeurs continuent de faire son bon chemin.
Réaction, professeur.
Non, je crois
le
que...
Le pouvoir pour le pouvoir.
Non, ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Je pense que les négociateurs qui étaient l'état d'esprit de tous les Congolais qui étaient les acteurs politiques, l'opposition politique, la société civile, la volonté de tout le monde était d'aller de l'avant. Hein, et c'est ceci qui nous a conduit à signer l'accord global inclusif le 17 décembre 2002. Donc, c'était pas le pouvoir pour le pouvoir. Il est bien entendu, pour gérer le pays, il fallait bien un cadre juridique pour le faire. Et la négociation s'est aussi déroulée autour des institutions à mettre en place.
Georges Tchonzamata, comment vous percevez les différents points de vue? On a reculé, on a avancé. Quelle est votre analyse?
Bien, mais nous sommes contents parce que ces analyses qui sont toutes valables du point de vue de ceux qui les émettent, nous donnent vraiment la satisfaction qu'effectivement il fallait qu'il y ait ces débats. Et donc nous pensons que l'un des objectifs de cette évaluation est atteint, parce qu'il fallait vraiment que les filles et les fils de ce pays se parlent autour de ces moments importants de l'histoire qui a été, on a dressé un consensus. Il y a eu, c'est vrai, chacun peut voir un verre à moitié plein, un autre le voir à moitié vide.
Et vous le voyez comment?
Ah, mais nous le voyons dans le sens que nous sommes contents que les gens se soient exprimés là-dessus.
Alors, est-ce qu'on peut considérer, comme le pensent certains observateurs, que la non-application de cet accord de San City serait le péché originel qui a conduit la RDC à la situation dans laquelle elle est actuellement?
Je ne pense pas que s'il n'y avait pas San City, je pense qu'il aurait fallu l'inventer. San City nous a permis de recoller les morceaux. Et je pense que, comme l'ont dit tous les intervenants autour de cette table, même ceux qui sont à l'extérieur, tout le monde reconnaît aujourd'hui que San City a permis effectivement d'asseoir l'accord de Lusaka, qui était un accord de cessez-le-feu, sur un accord politique. Et dans tous les conflits, la meilleure façon de sortir d'un conflit, c'est autour d'une négociation. Et c'est la négociation qui permet effectivement de pouvoir finalement mettre les différents protagonistes ensemble, les entendre les différents intérêts en présence pour développer un schéma de sortie des crises. Et donc, San City a permis ces schémas de sortie des crises.
Professeur Victor Okombe, qui nous écrit de Bruxelles en Belgique, dit « La réalisation des accords de San City, entre parenthèses, ou en gros le développement de notre pays, ne peut pas être un fait du hasard. Elle ne peut qu'être le résultat d'un travail des acteurs sur terrain. Est-ce que nos politiciens ont vraiment la volonté de changer réellement ce pays? Je ne le pense pas, dit-il. Nous avons dans notre pays un grand problème, celui de la qualité des opérateurs politiques. Nos opérateurs politiques sont de très faible qualité morale, ne plaçant avant tout que leurs intérêts individuels. Je ne pense pas que notre pays puisse s'en sortir de si tôt, c'est dommage, mais c'est celle-là la vérité, Georges Tonzamata.
Je crois que si le professeur
Victor Okombe
a lu l'appel qui est sorti de cette évaluation, je crois que la troisième recommandation, et c'est unanimement souligné par tous les participants, qu'il faut effectivement développer la culture de l'amour du bien commun, le respect de l'intérêt national. Et je pense que ce sont des valeurs fondamentales que tout le monde a reconnues comme ayant encore un grand déficit au niveau social, au niveau politique et au niveau économique.
Les recommandations, nous allons les aborder dans très peu de temps, mais nous allons prendre pour vous, Georges Tchonzamata, cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Jean-Charles Luanda à Kinshasa. En dehors des nouvelles institutions issues des élections peu démocratiques, 10 ans après les accords de paix conclus à Sainte-City, ne sont qu'un résultat de montagne qui accouche d'une souris. Comme preuve, le vécu quotidien du citoyen congolais ne s'améliore toujours pas. L'administration de la justice laisse à désirer. L'insécurité bat son plein surtout à l'est du pays. L'impunité et d'autres abus se commettent de plus en plus librement et par les inciviques et par les détenteurs du pouvoir.
Réaction Georges Tonzamata.
Je crois que, bien, ça c'est une lecture, je crois, de quelqu'un, d'un citoyen qui a le ras-le-bol.
Qui en a assez.
Qui en a assez, et je pense que c'est légitime qu'un citoyen s'exprime au vu de ce qu'il a, de son vécu quotidien. Bien évidemment, lors de l'évaluation, tout le monde a reconnu qu'on ne peut pas continuer à parler des croissances économiques alors que il y a la population croupie dans la misère. Une croissance économique qui n'entraîne pas l'amélioration du social, l'amélioration du vécu du quotidien des gens, c'est absolument peu crédible. Donc je crois que tout le monde l'a reconnu. Nous avons eu à la fois le bonheur de voir les tenants de la majorité et de l'opposition ainsi que nos scientifiques partager un certain nombre d'analyses d'une manière assez correcte et assez honnête. Je crois que ce que les citoyens viennent de dire, c'est effectivement une préoccupation qui aujourd'hui est partagée par tout le monde au niveau politique et au niveau scientifique également.
Monsieur Kabeya Chikuku, il y a Rodrigue Makita, cet internaute qui nous écrit et qui dit « Cet accord n'a visé que le partage de pouvoir entre les protagonistes. La part de la population congolaise n'a jamais été prise en compte. La population continue à croupir dans la misère pendant qu'ils se construisent des immeubles, s'achètent des voitures de marque et des comptes en banque partout dans le monde. La guerre à l'est du pays n'est que la preuve de cet échec. Il faut une vraie alternance dans ce pays et un vrai dialogue. » Qu'est-ce que vous en pensez?
Je n'ai pas de commentaire. Après tout, ce n'est pas une opinion isolée. C'est une opinion relativement désespérée et elle est malheureusement largement partagée dans notre peuple. Je crois que nous ne pouvons pas pousser la myopie ou l'autosatisfaction jusqu'à proclamer que tout marche. Ce n'est pas l'idéal, mais que tout marche et que le train est sur les rails et tout ça. Je crois que ce serait un peu exagéré et à la limite un peu difficilement tolérable.
Là, vous répondez au professeur Théophile.
Non, j'appuie celui que vous venez de citer là. J'appuie celui que vous venez de citer.
Alors le professeur Théophile Bemba a presque eu la même lecture, la réconciliation nationale, la restauration de l'intégrité territoriale, la pacification, l'unification du pays. Il a jugé que tout ça allait quand même bien, même s'il y avait encore beaucoup de choses à faire.
Non. Je crois que, à mon humble avis, cette façon de présenter le bilan ne me satisfait pas. À mon humble avis. Parce que il faut voir quelles sont les conditions nécessaires et minimales d'existence et d'épanouissement de tout un peuple. C'est là la question. Avons-nous atteint le point de non-retour vers tout ce que nous avons connu comme maux, notamment les risques de balkanisation, les risques d'insécurité et de guerre, l'absence de justice, l'absence de développement social. Est-ce que nous avons atteint, malgré tout ce que nous aurons fait comme effort, et les efforts sont indéniables, on ne peut pas, honnêtement, on ne peut pas renier tous les efforts qui ont été faits. Est-ce que nous avons obtenu un résultat qui puisse nous dire que nous avons ceci de garantie, par exemple la paix. Nous avons l'intégrité territoriale garantie. Nous avons la sécurité garantie. Nous avons une armée capable de nous défendre. Nous avons un système judiciaire qui fonctionne, bien sûr avec quelques ratés, mais de manière relativement satisfaisante. Nous avons un revenu de consommation qui soit à la hauteur du minimum de nos moyens. Je ne crois pas que nous puissions répondre oui. Et tant que l'existence de tout un peuple est piégée sur différents fronts, comme je viens de les décrire, nous ne pouvons pas nous décerner un certificat d'autosatisfaction. Non. Il y a un point de basculement, un minimum que nous n'avons malheureusement pas atteint malgré les efforts qui ont été fournis. Alors, on nie pas les efforts, mais on dit on n'y est pas arrivé.
Alors, à quel moment les choses, je parlerai un peu simplement, les choses se sont-elles gâtées dans la mise en œuvre de cet accord de Sun City?
Non, il y a un des auditeurs qui vient de dire que Sun City c'était seulement pour le partage du pouvoir. Et je crois que sa sensibilité est tout à fait incontestable au vu des résultats que nous avons devant nous. Ça veut dire quoi? Les efforts, il y en a eu, mais insuffisants et à la limite symboliques. On n'a pas senti d'abord une vision, on n'a pas senti la prise en main d'un destin, on n'a pas senti l'investissement des efforts et de l'imagination dans la recherche des principaux piliers de l'État. On n'a pas senti ça.
Professeur Théophile Bemba, répondez avant que l'on aborde les recommandations.
Mais d'abord, même Monsieur Kabeya Tshikuku reconnaît qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Et il serait pas honnête de ma part non plus de dire qu'il n'y a pas de problème, il y a des problèmes. Je ne m'octroie pas un de satisfaction pour dire que l'accord global et inclusif a été exécuté pleinement et que tout va bien. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis par rapport aux objectifs majeurs du dialogue intercongolais, il y a eu une avancée. Parce que le point auquel nous nous trouvons aujourd'hui n'est pas celui auquel nous nous trouvions en 2002. Et donc, de ce point de vue, il y a une avancée. Deuxièmement, moi je ne voudrais pas être pessimiste, parce que les Congolais, souvent, nous avons l'art d'être pessimistes. Vous savez, j'ai toujours pensé qu'à un moment, il faudrait que quelqu'un écrive un livre sur les espoirs dessus. Pourquoi? Parce que à chaque session de négociation, on fait rêver le peuple, effectivement, pour dire que, à l'issue de ces négociations, un peu comme une baguette magique, que tout va changer.
Comme vous l'aviez fait à Sun City.
À Sun City, on l'a pas fait. À Sun City, c'est ce que je voudrais expliquer. À Sun City, on a montré la direction, dit, on va vers l'instauration d'un nouvel ordre politique. Et le développement, c'est un processus de changement. Et le changement n'arrive pas du jour au lendemain. Et donc, je considère que, par rapport à ces processus de changement, il y a un pas, si maigre soit-il, mais il y en a un qui a été fait. Et que donc, ce qui reste à faire ne doivent pas nous amener à reculer ou à refaire Sun City. Non, nous devons, à l'issue de l'évaluation, voir où étaient nos points faibles et où étaient nos points forts. Et alors voir comment on peut rectifier les points faibles pour aller de l'avant. Mais on ne peut pas se mettre à se plaindre, vous dites que tout va mal. Mais alors qui fera quelque chose dans ce pays si tout le monde doit se plaindre en disant que tout va mal?
À l'issue des 3 jours de réflexion organisés par le Pregesco sur le bilan des 10 ans de l'accord politique de Sun City, des cadres congolais issus des partis politiques, de la société civile et du monde scientifique ont formulé des recommandations relatives notamment à la préservation des valeurs du consensus et des vertus du dialogue, à la consolidation de la paix, au renforcement de l'État et à la consolidation de la démocratie. Les détails avec vous, Kéline Kouté.
Par rapport à la préservation des valeurs du consensus et des vertus du dialogue, les participants ont recommandé la mise en place d'un cadre permanent et non formel de dialogue inclusif entre les Congolais, d'encourager le même processus à tous les niveaux et de renforcer les sentiments d'appartenance à la communauté nationale. En ce qui concerne la consolidation de la paix, ils ont plaidé pour la promotion de l'appropriation par la RDC du devoir et des instruments et procédures de la justice dans leur intégralité par la création d'une commission Vérité et Réconciliation ainsi qu'un observatoire national de droits humains à des fins de documentation des cas et des sanctions. Parmi d'autres recommandations, il y a le rétablissement de la territoriale de non-originaires en assurant la dépolitisation de l'État en vue du renforcement de l'autorité et de la cohésion nationale. Pour le renforcement de l'État, il plaide pour la tenue des États généraux de l'armée et du système de défense, la conduite de la réforme du secteur de sécurité en général en prenant en compte la dimension des problématiques transversales, notamment la formation, la spécialisation et le fonctionnement de l'armée, de la police et de la justice. Quant à la consolidation de la démocratie, les participants suggèrent de revenir à l'esprit de l'accord global et inclusif issu du dialogue intercongolais en rapport avec le processus de démocratisation. Il faut, selon eux, reconstruire le pacte républicain comme clé de voûte de la culture politique, restaurer l'indépendance du pouvoir judiciaire en rendant effectif l'éclatement de la Cour suprême en 3 ordres juridictionnels.
Merci Kevin Kouté. Professeur Théophile Bemba, 10 ans après Sand City, que faut-il améliorer d'après vous?
10 ans après Sand City, je dis c'est dommage que l'invitation qui m'était envoyée pour participer à la journée de réflexion ne m'était pas parvenue et donc je n'ai pas pu préparer aux travaux. Mais néanmoins, qu'est-ce que j'entrevois? Moi je dis, 10 ans après, nous devons scruter de près là où nous avons été faibles. Le pays fait face à de nombreux défis, dont le défi de la pauvreté, les défis de la bonne gouvernance, les défis de mettre fin à l'impunité, à la corruption. Un peu tous ces défis-là qui demeurent encore des problèmes majeurs pour ouvrir la voie à un changement total qui puisse avoir une incidence sur le bien-être de la population, que nous puissions nous mettre ensemble pour pouvoir lever ces défis. 10 ans après, ce qu'il faut, c'est de consolider aussi l'esprit démocratique. Tout à l'heure, je suis vu par un nombre de recommandations, en fait, un peu la création d'un cadre pour pouvoir perpétuer l'esprit des consensus, etc., si j'ai bien compris. Moi, je crois qu'on ne doit pas aller dans le sens du consensus. On doit aller dans le sens de culture d'un esprit démocratique. Ça dit qu'on comprenne qu'une société, un État, se gère sur base de lois de la République. Et que le Congolais doit être préparé à comprendre que personne n'est au-dessus de loi. Et que les choses s'organisent dans le pays par rapport à ces lois et que tout le monde doit le respecter. Et que ce n'est pas parce que la loi vous est désavantageuse que vous devez vous en prendre à la loi. Donc il y a cet esprit-là qu'on doit pouvoir cultiver pour que tout le monde s'engage dans la voie de la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la République et George, la voie de développement.
Merci professeur Georges Chonzamata. On parle des recommandations. Le professeur Théophile Bemba disait tantôt qu'il ne faut pas refaire Sand City, mais il faut évoluer. Qu'est-ce qu'il faut changer aujourd'hui et maintenant?
Je crois que le plus important dans une démocratie ou dans un pays, effectivement, c'est, comme nous l'avons fait avec cette évaluation, c'est chaque fois de s'interroger sur les pas qu'on fait. Est-ce que nous avons fait un pas vers la bonne direction ou vers la mauvaise direction? Donc je pense que ce qui est très important, c'est de s'interroger chaque fois que l'on fait un pas. Et apparemment, depuis Sand City, c'est vrai qu'il y a eu des SIAT, il y a eu la transition, des élections. Est-ce qu'on a eu chaque fois à s'interroger sur chaque pas? Nous avons fait différentes générations de DCRP. Quelles sont les évaluations qu'on a faites de ça? Pourquoi on n'a pas atteint les résultats de tous ces DCRP? Pourquoi la décentralisation ne marche toujours pas? Voilà des choses qu'il faut. Je pense dans notre démarche, nous avons fait 3 propositions. 1. Quelles sont les avancées? Et les gens les ont décrites. Ils pour dire, voilà, ces avancées sont-elles suffisantes? Quels sont les reculs? Les gens ont trouvé les reculs. Ils les ont trouvés plus nombreux. Ils ont trouvé également des défis. Je pense qu'il faut travailler sur ces défis nouveaux qui se posent à notre société pour que les institutions, la population, trouvent son compte dans les processus de développement du pays. Sinon, on va faire du surplace et lorsqu'on fait du surplace par rapport aux autres États qui avancent, eh bien, nous allons continuer à reculer.
Monsieur Kabeya Tshikuku, le président de la République a lancé l'idée du dialogue national. À ce jour, quelle forme devrait prendre cette idée par rapport à tout ce qui a été fait à Sun City? Il faut évoluer, a dit le professeur Théophile Bemba. Je rappelle qu'il nous reste moins de 5 minutes.
Non, très très rapidement, je voudrais dire ceci. J'insiste sur le fait que les efforts qui ont été faits sont des efforts largement insuffisants par rapport aux moyens qui ont été développés, par rapport au temps qui a été imparti, par rapport à l'arsenal des moyens institutionnels qui ont été mis en route, c'est insuffisant. Donc, ça c'est une chose. Quand on dit insuffisant, c'est pas seulement péremptoire de dire tout simplement ça, on vous jette ça à la figure. Non. C'est insuffisant, c'est-à-dire c'est insuffisant pour faire vivre une communauté nationale dans la paix, dans l'unité, dans la tranquillité et dans la dignité. C'est insuffisant, largement insuffisant. Maintenant, le dialogue, tout près de ce que vous me posez comme question, le dialogue. Le dialogue doit être permanent. Si le président de la République le veut, et il est dans les fonctions et dans les responsabilités de le vouloir, nous ne pouvons que répondre à ce dialogue. Mais encore faut-il que ça se prépare. Et une des pièces maîtresses qu'il faudra verser à ce dialogue, c'est ce qui vient de sortir comme résolution et évaluation de ce forum que nous venons de tenir. Il y a aussi les cris de détresse qui viennent de partout. Des femmes violées, des administrateurs qui sont sans salaire, et ainsi de suite.
Et alors, en guise de conclusion pour vous, qu'est-ce qu'on peut retenir en un mot?
En un mot, il y a trop peu, on a fait trop peu et suffisamment tard. L'État n'a pas ses assises, la société n'a pas sa sécurité.
Merci. Professeur Théophile Bemba, le dialogue lancé par le président de la République, vous avez dit qu'il ne fallait pas refaire Sun City. Quelle forme, par exemple, devrait-il prendre? Il doit être permanent, dit M. Kabeya Tshikuku.
Le président de la République a lancé l'idée de la cohésion nationale, justement en constatant qu'après la situation sécuritaire qui s'est survenue avec l'M23 au nord Kivu, que l'ensemble des Congolais, plutôt que de demeurer patriotes, de converger dans la même direction pour défendre l'intégrité nationale, la souveraineté nationale, qui a eu de divergences et de ce point de vue, en tant que garant de la nation, il s'est dit, il y a un problème, donc il faut qu'on se parle. Et qu'on se parle, qu'on voie quelles sont les pesanteurs qui brisent un peu cette cohésion nationale. Et alors, quelle forme il doit prendre? Tout ce que moi je peux dire, c'est que je n'imagine pas recommencer, en tout cas, ni la conférence en souveraine, encore moins Sun City. Il faut que, à ce stade, que ce type de concertation, comme il a dit, devrait amener à ce que les uns et les autres parlent et s'écoutent. Et en se parlant et en s'étant écouté, on dégagera certainement des pesanteurs et alors prendre la résolution d'aller de l'avant pour que réellement cette fois-là que la paix soit au rendez-vous et que le développement et le bien-être aussi des populations soient au rendez-vous.
Georges Tshonzamata, un mot en guise de conclusion.
Je crois que le débat doit se poursuivre, le dialogue doit être permanent parce que c'est la meilleure façon de briser plusieurs glaces qui bloquent parfois même le fonctionnement des institutions, qui bloquent parfois même des lois essentielles, qui bloquent aussi toute la machine de la nation.
Merci messieurs d'avoir participé à cette émission Dialogue entre Congolais. C'est terminé pour ce soir. Merci à Kevin Kouté et Samuel Kachak qui m'ont aidé à vous présenter cette émission. Merci à Pelekipe Lamondo qui en a assuré la supervision. Willem Lungamba était à la mise en onde. Présentation et coordination, Alain Rong-Mouchige. Au revoir.